Mozart.
Beethoven et Mozart. La musique de Beethoven apparaît souvent comme une contemplation profondément émue à l'audition d'un morceau que l'on croyait perdu depuis longtemps. C'est l'innocence dans les sons. Une musique au sujet de la musique. La chanson du mendiant ou de l'enfant des rues, les motifs traînants des Italiens en voyage, les airs de danse des auberges de village ou des nuits de carnaval. Voilà les sources d'inspiration où Beethoven découvre ses mélodies. Il les amasse, comme une abeille, en saisissant ça et là une note ou une courte suite. Ce sont pour lui des réminiscences transfigurées d'un monde meilleur, un peu comme Platon imaginait ses idées. Mozart est dans un rapport tout différent avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en entendant de la musique, mais en regardant la vie la plus mouvementée des contrées méridionales. Il rêvait toujours de l'Italie lorsqu'il n'y était pas.
Un peu comme Platon imaginait ses idées, écrit Nietzsche dans Humain trop humain, ici le voyageur et son ombre, ce sera le sujet de l'émission demain avec André Tuboeuf qui tient les opéras de Mozart comme étant l'expression de la philosophie de Platon. Ça, ce sera demain avec vous aujourd'hui, Philippe Soler, cette comparaison entre Beethoven et Mozart faite par Nietzsche. Alors, c'est très difficile de distinguer, de dire avec des mots, déjà de parler de musique en général, et précisément de dire ce qui distingue la musique de Beethoven de celle de Mozart. Nietzsche nous dit, bien Beethoven, c'est une musique au sujet de la musique, alors que Mozart est dans un rapport tout différent avec ses mélodies. Comment vous décrivez-vous cette différence?
Tout ça ne veut pas dire grand-chose si on oublie l'histoire avec des dates précises.
Dites-moi.
Voilà. Mozart est un révolutionnaire qui va porter la révolution, qui elle-même va avoir des difficultés avec la terreur, avec ensuite le premier empire, après avec une république qui tarde, puis un second empire en France. Je parle pas... Beethoven est aussi un révolutionnaire. Il a compris que c'était Mozart qui était en train d'amener la révolution, la grande révolution. La grande révolution, c'est la française, il n'y en a pas eu d'autre. Tout ça était une falsification générale qui continue, d'ailleurs, peu importe. Beethoven, il commence par dédier une de ses symphonies à Bonaparte, qui est le porteur quand même de la Révolution française en Europe. Et puis, vous savez très bien qu'il a, lorsque l'autre est devenu de général, de génial, un empereur qui commence à être tout à fait empereur. Alors, pour le coup, Beethoven raye sa dédicace, raye de rage. Voilà, donc... Beethoven a fait évidemment une très grande musique, symphonie, etc. L'hymne à la joie nous permet d'entrer directement au Panthéon et de valser parmi les morts avec les présidents, le président Mitterrand, etc. Bon, tout ça. Mais vous voyez bien qu'on est très très loin de Mozart. Très loin. C'est très bruyant, c'est très formidable. Il n'y a aucun problème. Mais bon. Mais déjà, on s'achemine vers quelque chose qui représente un peu l'époque, qui est lourde. Et alors, elle va devenir monstrueusement lourde avec Bayreuth et Wagner et la polémique avec Nietzsche qui va, lui, se rendre compte, le seul lucide, qui va se rendre compte que tout ça va à la catastrophe. Ça s'appelle le cas Wagner, par Monsieur Frédéric Nietzsche, qui adorait évidemment Mozart.
Et qui a commencé par adorer Wagner avant de lui en vouloir. Mais dans ce texte, il compare Mozart à finalement un Italien. Il dit que Mozart n'était pas du tout allemand ni autrichien. Il avait dans le tempérament, il était italien. Au fond, ce que dit Nietzsche, ce que vous avez l'air de dire, c'est que le rapport de ces compositeurs à leur musique est aussi une affaire de caractère. C'est la façon dont eux-mêmes mettaient leurs opinions, soit politiques, soit leur personnalité dans leur musique, qui détermine ensuite la tonalité de la musique.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Mozart était un... Évidemment, vous connaissez l'italien dans toutes ses nuances et ses raffinements. N'empêche qu'il l'a, il a envisagé et il l'a fait d'écrire un opéra en allemand. Mmh. Hein, il l'a fait. Le seul pays qu'il trouve absolument dépourvu de musique, et lorsqu'il est à Paris, il le dit d'une façon extrêmement cinglante, d'autant plus qu'on le fait attendre avant de jouer sur un piano désaccordé, les aristocrates sont nuls, et donc la révolution aura lieu. Et oui, pour cette raison même, parce qu'il n'y a pas de musique, et l'orchestre de Paris est incapable de lever l'archet comme il faut, etc. Il est complètement épouvanté, et il dit... C'est impossible, ça va être impossible d'écrire un opéra en français. Ce qui est un peu vrai, parce que si vous prenez la musique française, dont au fond, à part quelques grandes exceptions, on pourrait très bien se passer si on a l'italienne, l'allemande et l'anglaise, voilà probablement quelque chose qu'il faut méditer pour savoir pourquoi le peuple français s'est enfoncé dans une surdité de plus en plus profonde, malgré sa grande révolution portée par Mozart.
Vous avez une hypothèse ?
La surdité, on ne parle que de... ouvrez l'actualité.
Mais comment l'expliquez-vous ? Pourquoi est-ce que vous... ce diagnostic que vous faites de la surdité française ?
Je l'explique par le fait qu'il n'y a pas de musique, de cours de musique. Vous savez, en Allemagne, tout le monde fait de la musique, enfin, depuis très longtemps. Bon, c'est passé dans les mœurs. En France, non, très peu. Enfin bon, voilà. Donc, après ça, vous faites une déferlante américaine de rock, de musique pop, etc. C'est fini. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a plus de musique à proprement parler. Voilà. Voilà pourquoi Mozart ressort de tout ça, frais, léger et complètement actuel et porteur d'un espoir révolutionnaire.
Alors, actuel, on y reviendra, parce que vous commencez votre livre en disant Mozart est partout. Dans les répondeurs téléphoniques, dans les taxis, dans les ascenseurs, il y a une espèce de...
Finalement... Eh bien, il survit à ça, oui.
Oui, mais alors, c'est ce qui est un sacré tour de force, parce que ça veut dire... Mais on revient à la dimension populaire de sa musique, c'est qu'elle elle fonctionne en plus de sa beauté.
On peut la mettre en bruit de fond, en musac, si vous voulez, mais ça change pas. La révolution de Mozart, c'est d'abord, ça porte sur l'égalité entre les sexes. Et c'est ça qui est très important à voir dans sa musique et son comportement et son message révolutionnaire.
Dites-nous
c'est quelque chose. Non, mais comme les deux sexes doivent être à égalité. Alors on va ruser, on va s'amuser avec ça, mais il est le premier à dire au fond qu'il est aussi à l'aise dans le rôle d'homme que dans le rôle de femme. Mon amie Cecilia Bartoli rêve d'interpréter Don Juan, par exemple. C'est quand même étrange. Et elle me dit, Mozart, ce qui est inouï, c'est qu'il est aussi à l'aise avec les voix d'homme qu'avec les voix de femme. D'où vient qu'il soit aussi à l'aise des deux côtés ? Donc il n'y a pas de séparation. On invente une séparation entre les sexes. On la martèle. Mais ça, c'est précisément très réactionnaire. La révolution, c'est l'égalité partagée.
Ouverture des Noces de Figaro avec chef d'orchestre Théodore Currensis. Pourquoi cet opéra, écrit en 1786, 3 ans avant la Révolution française, est-il le plus révolutionnaire de Mozart, Philippe Solers ?
Oui, bon marché. La folle journée, Les noces de Figaro. Première scène, c'est un, en effet un mariage où on mesure l'espace du lit. Enfin voilà, ils sont tous les deux très bien, à égalité.
Qui tous les deux?
Oh, belle Figaro et Suzanne. Bon, donc ils sont à égalité. Va venir le diable aristocratique qui va vouloir s'insérer.
Donc Figaro et Suzanne sont deux domestiques qui sont amoureux.
Oui.
Et leur employeur veut séduire Suzanne.
Voilà.
C'est comme ça commence la pièce.
Donc tout l'opéra, ça va être la façon de dénoncer cette prédation de pouvoir d'un aristocrate sur une servante. Bon. Et donc c'est quand même un opéra extraordinairement subversif pour l'époque. Il faut bien 1786. Nous ne sommes pas en 1789, 90, 91, 92, 93. Des droits de l'homme, les droits humains, etc. Puis au fond, peut-être que les citoyennes auraient le droit d'exister. C'est pas ce que la Révolution française a reconnu. D'ailleurs, il a fallu très longtemps. Mozart est très en avance. Il prend des risques. Il prend des risques et il va y avoir immédiatement une ferveur populaire sur cet opéra, mais pas à Vienne, à Prague.
Et donc la dimension révolutionnaire, elle est dans la remise en question d'un statut social avant l'heure. Elle est aussi, vous l'avez dit, on la trouve dans le fait qu'il s'adresse, enfin, pour la première fois, il prend en compte l'avis du public.
Mais le public se rend compte à ce moment-là, horreur, terreur, qu'au lieu de leur présenter un opéra rempli de mythologie, de déesses et de dieux qui viennent pérorer ou chanter leurs airs, d'ailleurs de façon sublime, c'est très bien. Mais tout à coup, cette espèce de petit Mozart intranquille les représente leur intimité sur scène. Vous vous rendez compte?
C'est la première fois.
Mais oui, c'est la première fois. Trouvez-moi un autre opéra. C'est la première fois que vous savez. Ça s'appelle Les Noces de Figaro. Et vous pouvez le réécouter aujourd'hui avec un bonheur extrême qui prouve, et en même temps c'est très drôle, les situations sont extrêmement tendres et drôles. Puissantes et drôles. Vous avez le chérubin.
Voilà, ce personnage qui est ni homme ni femme, on en revient au
mon
caractère.
Mon cœur soupire la nuit, le jour, qui va me dire ce qu'elle a. Bon, enfin, il faut faire jouer ça par une femme, alors que c'est un garçon, et que, dont les femmes vont s'amuser, etc. Un peu qu'on cache dans un placard. Mais enfin, c'est extrêmement nouveau. Extrêmement. Donc, ça a plu. Parce que les airs sont faciles à retenir. Bon, voilà. Qui va me dire? Et donc, c'était son coup d'éclat. 1786. Après, nous avons des choses qui commencent à devenir beaucoup plus profondes et tragiques.
C'est la première fois qu'il est profane aussi, dans ce texte.
Oui. Oui. C'est la première fois que vous avez l'annonce de ce qui va suivre, c'est-à-dire la Révolution. Et il a pris Beaumarchais, c'est-à-dire un texte français très suspect pour l'époque.
Pourquoi suspect?
Parce qu'il énonce, il énonce précisément ce qui va se passer. Beaumarchais n'était pas non plus quelqu'un de conforme à la cour, non.
Alors après Les Noces de Figaro suivront beaucoup beaucoup d'autres œuvres hein, puisque Mozart a encore quelques années avant de mourir à 35 ans et on trouve notamment, si on quitte le domaine de l'opéra un instant, Philippe Sellers, une musique qui vous tient particulièrement à cœur, qui est un quintet.
Oui.
Un quintet avec clarinette. Et vous dites que la clarinette, c'est l'instrument fétiche de Mozart.
Oui, Mozart s'exprime souvent. Il a un grand ami qui s'appelle Klader, qui était clarinettiste, pour lequel il a écrit non seulement ce quintet sublime en la majeure avec clarinette, qui est que j'ai utilisé dans un livre qui s'appelle Le cœur absolu, comme hymne d'une petite société secrète, qui a ça comme hymne, et puis un concerto pour clarinette, etc. Et dans la Clémence de Titus, si vous écoutez la partie clarinette, vous savez que c'est l'instrument préféré de Mozart.
Pourquoi ?
Dans le haut
Pourquoi
et le
c'est
bas.
Le préféré ?
Parce qu'on peut le moduler. Vous écoutez tout à l'heure la voix d'Elisabeth Schwarzkopf. Mm. Vous avez vu comme elle est, parce qu'elle a une vie de sa voix qui est très aiguë, où elle peut aller très bas, hein, dans le son. Avec la clarinette, vous pouvez faire ça. Donc, c'est une voix.
En voyage, par exemple en voiture ou après un bon repas en promenade ou la nuit quand je ne puis dormir, c'est alors que les idées me viennent le mieux, qu'elles jaillissent en abondance. Celles qui me plaisent, je les garde en tête et sans doute je les fredonne, à part moi, à en croire du moins les autres personnes. Lorsque j'ai tout cela bien en tête, le reste vient vite, une chose après l'autre. Je vois où tel fragment pourrait être utilisé pour faire une composition du tout, suivant les règles du contrepoint, les timbres des divers instruments, etc. Mon âme alors s'échauffe. Du moins quand je ne suis pas dérangée. L'idée grandit, je la développe, tout devient de plus en plus clair et le morceau est presque achevé dans ma tête, même s'il est long, de sorte que je puis ensuite, d'un seul regard, le voir en esprit comme un beau tableau ou une jolie personne. Je veux dire qu'en imagination, je n'entends nullement les parties les unes après les autres dans l'ordre où elles devront se suivre. Je les entends tout ensemble à la fois. Instant délicieux, découverte et mise en œuvre, tout se passe en moi comme dans un beau songe, très lucide. Mais le plus beau, c'est d'entendre ainsi, tout à la fois. Quel texte, Philippe Solers? Alors, est-ce un témoignage de Mozart? C'est ainsi que Heidegger le présente. Il rapporte ce texte dans son livre Le Principe de Raison, disant qu'il s'agit des propos de Mozart. Est-ce le cas ou pas?
Ah, wow. Écoutez, là vous avez l'adverbe clé et simultanément. Donc,
parce qu'il nous délivre les secrets de sa création.
Voilà. Je vois... J'entends, et je vois en même temps. Et non seulement j'entends et je vois, mais je dispose et je compose, et je retiens tout. Donc, il faut la mémoire hypermnésique, Mozart, hein, attention. Donc, et non seulement tout se passe dans sa tête, mais et pendant qu'il est dans sa tête, ses sens fonctionnent à plein régime, et ce qu'il entend, ce qu'il fredonne, souvent, les gens me surprennent en train de fredonner, oui, c'est ça. J'attrape un air, voilà. Et donc, en même temps, je vois la composition, je vois comme une... C'est un dramaturge, il y a deux très grands dramaturges dans l'histoire humaine, hein, dramaturge vraiment, c'est Mozart et Shakespeare. On ne comprend pas plus comment Shakespeare a pu écrire tout ce qu'il a écrit que Mozart écrivant autant de chefs-d'œuvre dans si peu de temps.
C'est je dis dramaturge, mais il prend l'exemple du tableau. Il dit c'est comme un beau tableau, ce serait plus un peintre.
Oui, je suis peintre, je suis sculpteur, je suis dramaturge, je suis théâtre. Le monde entier est un théâtre, donc je suis le régisseur. Le monde entier est un théâtre, celle du Shakespeare, le Globe.
Nous ne sommes que des acteurs.
Le Globe est un théâtre. Nous sommes en train de faire du théâtre, chère Adèle. Vous êtes un personnage de théâtre et moi aussi. Et c'est comme ça la vie intéressante. Voilà. Voilà ce que veut dire Mozart. On voit, on entend en même temps et on met en scène. C'est pour ça que la radio est formidable. Très bien. Vous voyez. On nous voit là. Sûrement. J'espère.
Mais voit-on autant que Mozart voyait, il dit « j'entends » et donc « je vois », puisque pour lui, il fait un parallèle entre les deux, tout à la fois. C'est comme si, alors on s'interroge souvent sur le travail du compositeur qui doit écrire les différentes partitions des différents instruments, et lui, en fait, il voit tout sous forme d'ensemble. S'il fallait qualifier son génie, c'est peut-être ça.
C'est pour ça que les autres compositeurs, à ses yeux, se traînent. Ils n'arrivent pas à voir tout à la fois. Et alors, il voit morceau par morceau. C'est évidemment, les êtres humains sont comme ça. Et ils voient pas tout à la fois. Ils sont dans une intrigue et il faut qu'elles se suivent. Vous voyez, pas qu'elles dérapent, pas qu'elles produisent des décalages.
Cette simultanéité du tout fait penser à un point de vue divin qui regarderait sa création et qui a pensé à la fois chaque détail et chaque agencement. C'est un peu le dieu de Leibniz, en fait, qui regarderait son monde quand Mozart parle de son travail.
Oui, c'est bien que vous me parliez de Leibniz. J'adore ce philosophe.
On va se quitter avec, alors, une, pardonnez-moi le sacrilège, hein, mais une version contemporaine de Mozart, puisque vous le dites, voilà, Mozart est partout, Mozart inspire encore aujourd'hui les compositeurs. Il y a énormément de compositeurs qui s'inspirent de Mozart. En voici une version, la version d'une petite musique par The Swingles Sisters. Merci beaucoup Philippe Solers d'être venu nous faire part de votre amour pour Mozart ce matin.
Merci à vous.
On peut lire le Mystérieux Mozart, c'est le titre du livre que vous lui avez consacré, en folio par exemple, Gallimard. On peut lire aussi alors votre dernier livre, Une conversation infinie avec Josiane Savigno, qu'on trouve aux éditions Bayard. Et puis paraîtra en mars prochain votre nouveau livre qui s'appelle Le Nouveau, aux éditions Gallimard.
C'est très nouveau.